Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai pour vous une question. Avez-vous déjà eu le goût de partir, de vraiment partir, de tout laisser derrière et de partir à l'aventure? C'est ce qu'a fait Heidi Spüller. À l'aube de ses 60 ans, cette Québécoise d'origine suisse lève l'ancre et entreprend un projet un peu fou. Sillonner à pied les routes du Québec pendant 3 mois pour semer le bonheur et donner au suivant. Sans argent, sans trajet préétabli et sans savoir où dormir soir après soir. Son guide, l'intuition. Avec comme seul bagage son sac à dos et ses bottes de marche, elle parcourt 1332 km en 110 jours, dort dans 61 maisons différentes et partage des moments inoubliables avec des dizaines de personnes, dont plusieurs deviennent des amis. À son retour, le nomadisme s'installe. En 3 ans, elle déménage sa pénate 19 fois. Et elle prend le temps de tout consigner dans un livre intitulé « Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive ». Je suis allé à la rencontre de cette nomade des temps modernes dans son lieu de résidence temporaire à Bromont, dans les cantons de l'Est. Voici l'entretien que j'en ai rapporté. Alors bonjour Heidi. Et merci beaucoup de nous accueillir chez vous pour cet entretien autour de votre livre « Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive ».
Bonjour.
Alors, avant d'entreprendre ce périple avec vous, Heidi, j'aimerais vous entendre parler de votre jeunesse dans votre Suisse natale. Car, si j'ai bien compris, c'est là que vous avez pris le goût à la marche, n'est-ce pas?
J'ai pris goût, mais plus tard. Parce que nous, on était sur une ferme. Hein. Je suis venue au monde sur une ferme.
Ah oui.
On n'avait pas de voiture. Et qu'est-ce qu'on faisait le dimanche après-midi avec nos parents? On allait marcher. Et ça, j'ai trouvé ça d'un ennui. À moins qu'il y ait un restaurant au bout du périple,
ah, oui.
Ou bien de la parenté ou des gens qu'on connaissait, puis avec des biscuits. Hein. Quand il y avait ça compensait.
Ou mais des friandises, quelque chose pour nous attirer un peu.
Oui, c'est ça. On est enfants, hein. Mais reste que ça fait vraiment partie de la nature en Suisse, marcher à ce moment-là. En tout cas, je parle quand même de quelques décennies, mais je crois que c'est encore comme ça aujourd'hui. On marche, c'est plus naturel d'explorer son environnement à la marche, surtout avec les belles montagnes qu'on a.
Ah, mais c'est fabuleux, parce que c'est une tradition, c'était une tradition et ça l'est toujours, j'imagine.
Oui, je crois bien que c'est toujours une tradition.
Oh, oui. Alors, vous vous êtes mis à la marche un jour?
Oui, bien plus tard, c'est drôle, hein, souvent les choses contre lesquelles on s'est prononcé très jeune, après on change de côté. Hein.
Oui, oui.
Alors, oui. Oui, jeune adulte, même avant, jeune adulte, je dirais, là, oui, j'ai recommencé à marcher, oui.
Et qu'est-ce qui vous a porté à changer, à vous transformer un peu en marcheuse?
C'est l'adolescence. La nature? C'est l'adolescence qui passe.
Ah bon, d'accord. On évolue, on grandit.
Oui, c'est ça. Effectivement. Et puis de voir aussi la beauté de ça. Je l'ai vu avant déjà la beauté, mais moins, hein, comme enfant. On n'est pas à la même place. Adolescent, on a tellement d'autres préoccupations.
Vous disiez, la Suisse, c'est un très beau pays que j'affectionne particulièrement parce que j'ai de bons amis aussi dans la région de Lausanne. Qu'est-ce qui vous a porté à laisser ce magnifique pays pour vous établir ici?
Ah, c'est la question, hein?
C'est la question.
Mais moi, j'ai rencontré sur mes nombreux voyages un Québécois dans une auberge de jeunesse en France et on a commencé en Suisse et puis on a fini par s'installer au Québec. Ça fait déjà longtemps. Ça fait en 83.
Ah, ça fait presque 40 ans. 40 ans l'an prochain.
Oui, ben oui, c'est vrai. Hein?
Oui. Oh. Le temps passe vite.
Ah, je peux pas m'imaginer que ça fait tout ce temps-là que je suis ici. je me sens.
Et vous aviez une profession en Suisse, je pense que vous avez transposé ici.
J'étais infirmière, puis quand je suis arrivée ici, on n'est plus infirmière, hein, parce qu'au Québec, on est tellement plus évolué qu'en Suisse. Hein.
C'est la reconnaissance.
Alors, il faut refaire des cours. J'ai tout refait ça, puis je me suis posé la question après, pourquoi? Mais c'était quand même le connu, hein. C'était du connu, même s'il fallait que je me recycle, c'était un monde connu, même si ce n'était pas vraiment une passion pour moi.
Ah, ce n'était pas une passion, même en Suisse?
Non, ce n'était pas une passion, mais c'était pratique, parce qu'on pouvait partir, voyager, on changeait de job, c'était très facile. Très facile, et puis on se faisait embaucher par téléphone. Un peu comme ici aujourd'hui, je crois.
Oui, mais en fait, il y a beaucoup d'infirmières québécoises qui vont travailler en Suisse.
Elles étaient acceptées là-bas, mais pas l'inverse.
Bon.
Alors, ça m'a pris 2 ans pour me recycler, puis j'ai vraiment trouvé ça très difficile.
Est-ce que c'est ce qui vous a amené à graviter vers le coaching? Est-ce que c'est ça qui...
Non, à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que je voulais d'autre, mais je savais que ce n'était pas ma passion. Alors, j'ai quand même trouvé aussi mon compte là, dans ma profession, je dois le dire. J'aime l'humain, c'est juste l'humain dans la maladie, mais on n'est pas dans le plein potentiel. On fait un accompagnement qui est très différent que si je compare au coaching.
Oui.
En coaching, on parle avec ce qui est là, avec la possession de ses moyens. On peut les augmenter, on peut aller chercher plein d'outils complémentaires pour faire en sorte qu'on se propulse. On est plus dans la propulsion. Alors qu'infirmière, on est vraiment à une autre place. Alors que quand même, je dois dire, quand j'étais en soins à domicile, j'ai accompagné des gens en fin de vie. Et ça, c'était fascinant. Là, j'ai vu...
Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous stimulait?
C'est quand on travaille avec des gens en fin de vie, il n'y a plus de masque. Alors, on voit où on en est.
Oui.
Là, on en voit. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis capable de rencontrer une personne en fin de vie? Est-ce que je suis capable d'être là, d'être bien, d'être une ressource, d'accompagner, d'être en paix avec le processus de fin de vie?
C'est troublant, c'est provocant.
C'était pas la première fois. J'ai assisté à ça depuis le début là de ma carrière là dans les hôpitaux, si je peux le dire comme ça. Mais j'ai eu au CLSC, j'ai eu la chance. Un jour, ça a duré un jour. J'ai été orientée par une infirmière. Je crois j'ai fait un shift. J'ai fait quelque chose de fondamental pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à cette place-là. Ça a tout changé. Ça a été formidable, formidable.
Dans l'institution même?
En CLSC, c'était à domicile.
Donc, à domicile.
C'est là que j'ai vu que j'avais fait du chemin. Donc ça, c'était formidable. Pour me situer où je suis aujourd'hui. Là, j'étais dans la jeune quarantaine à ce moment-là.
OK, oui. Et puis, vous avez bifurqué vers le coaching, vous disiez?
Oui, au moment donné, oui, c'est ça ce qui s'est passé. Ce n'était pas tout de suite le coaching, c'était vers le principe de mission. Moi, je me cherchais beaucoup, c'est quoi ma mission? Et je n'étais pas la seule. Et au moment donné, il y a eu le fameux livre de Jean Monbourquette, que peut-être vous connaissez, un psychologue, prêtre, qui vulgarisait beaucoup les thèmes de la vie. Il a sorti un livre qui s'appelle « À chacun sa mission ». Et je suis tombée en amour. Je suis tombée dedans. Ça m'a traversé ce livre-là.
Ah oui.
Et de fil en aiguille, je suis allée le rencontrer. Et de fil en aiguille, il y a eu un cours qui se tenait à l'Université Saint-Paul au deuxième cycle. Et puis j'ai collaboré avec la dame qui donnait le cours. Après, on a donné des séances au Centre Saint-Pierre à Montréal. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire ça en individuel. J'étais encore en CLSC. Et au moment donné, je pense que j'avais assez de l'institution-là. Ça faisait assez longtemps, puis j'ai fait le saut dans le vide. J'ai fait plusieurs sauts dans le vide dans ma vie.
Oui, j'allais dire, on va y revenir, mais ce n'est pas la première fois.
Non.
Donc, le coaching, c'est quoi le coaching? Quelle discipline, quelle orientation vous avez donnée à votre profession?
C'est une bonne question. Le coaching, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais c'est un accompagnement très dynamique comparativement à la psychologie, psychothérapie, où on est plus dans l'analyse vers le passé. On est beaucoup dans le aujourd'hui et puis où est-ce que tu veux t'en aller. Et on se sert du passé de façon à se propulser, de façon plus ciblée. C'est pas de l'analyse. Ce n'est pas focusé non plus sur l'écoute. Oui, et ça prend une écoute très efficace, très humaine aussi, pour entendre ce qui ne se dit pas.
Hein. Très empathique.
Oui, l'empathie, mais aussi entendre ce qui ne se dit pas, parce que si c'est déjà dit, ben, la personne n'a plus besoin de nous. Alors, et à partir de là, moi, c'est sûr que j'ai développé beaucoup mon intuition, la confiance en mon intuition au fil du temps, mais je me suis quand même formée. Il faut se former. Il y en a beaucoup qui ne se forment que très peu, des coachs. Ce n'est pas un titre protégé, hein. N'importe qui peut se nommer coach. Et moi, j'avais déjà tout le bagage là, en soins de santé, là, l'écoute, tout ça. Ce n'était pas nouveau, la relation d'aide. Depuis toujours, je suis latent. Donc, je pense que c'est un plus quand on a ça. Peut-être, des fois, ça peut être un frein parce qu'on écouterait peut-être trop, mais je ne crois pas. Coaching, c'est vraiment très dynamique. Moi, j'aime ça.
Et vous avez eu beaucoup de, comment on dit, de clients ou de participants au fil des ans?
J'en ai eu. Moi, j'ai décidé que je voulais aller en entreprise et j'ai travaillé avec des gestionnaires et des dirigeants de PME, plutôt petites que grandes, là, moyenne petite. Et là, j'ai eu vraiment du challenge, du défi. J'ai beaucoup aimé ça. Mais moi, j'étais plus ou moins à l'aise, là, comme beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ces métiers-là, avec la mise en marché. Hein. C'est une autre profession.
Tout à fait,
hein.
Oui.
Alors, j'ai pas eu beaucoup. J'ai quand même eu des dossiers d'impact. Et j'ai aimé ça beaucoup. Pour moi, c'est la connexion. C'est la connexion qui fait que tout devient possible.
C'est l'humain.
L'humain, la relation entre les humains, donc moi avec l'autre personne, créer un espace où tout est ouvert, où tout devient possible.
Tout est possible.
Tout est possible. Et c'est là où on peut comme changer vraiment de parcours, là. On peut changer, on peut aller vers soi, c'est toujours vers soi où on va, hein. C'est jamais vers le voisin, le meilleur de soi, c'est déjà là, c'est en soi, mais c'est caché souvent. Donc, c'est ça qui est formidable, de faire ce chemin-là.
Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup grandi par le coaching.
Oui. Puis, c'est pas fini.
Hein? C'est pas fini.
C'est pas fini.
Il reste un jour, vous en avez eu marre un peu, je pense, du coaching, je ne sais pas si c'est l'intensité ou
pas
la répétition.
Non, c'est pas le coaching. J'en avais marre de l'entreprise.
De l'entreprise.
De tout ce cirque-là d'être en entreprise.
Ah, oui.
Et j'ai réalisé, si je regarde ça, aujourd'hui, je dis, ben, je suis plus une aventurière qu'une entrepreneur.
Oui.
Et le défi aujourd'hui, c'est vraiment de faire un mix des deux. Hein, de joindre ces deux forces-là. C'est pas si différent que ça, mais c'est sûr, l'aventurier, il part, il fait pas de tenue de livre, il fait pas du développement de marché, là, un certain nombre d'heures par semaine, hein, donc. J'avais besoin de vent frais, j'avais besoin de folie, j'avais besoin de sortir d'un carcan, oui.
Donc, vous avez décidé un jour de tout quitter sur un coup de tête ou... C'était peut-être l'intuition, ces petites voix que l'on n'écoute pas toujours, mais qu'on devrait. Et je pense que c'est lors d'un atelier qu'il y a un déclic qui s'est fait et puis ça a déclenché autre chose.
Oui, un peu comme le livre de M. Monbourquet,
oui,
à chacun sa vie.
Oui.
Ce qu'il y avait là, moi j'avais un pied cassé et j'avais pas eu le courage de dire que ça ne me tentait pas d'aller à c'était un mastermind, un groupe de développement là, d'entrepreneurs. Ça ne me tentait pas d'y aller, je n'ai pas eu le courage de le dire et je m'en voulais de ne pas l'avoir dit. J'avais le pied dans une botte d'astronaute.
Oui.
Hein? On n'a plus de plâtre maintenant.
C'est ça, oui.
Et puis, je suis allée là avec bus, métro, puis je suis arrivée avec une heure de retard. Ça ne me tentait vraiment pas. Et j'arrive, il me semblait, l'énergie était lourde. Qu'est-ce que je fous ici? Complète résistance, complète. Et puis, quand c'était mon tour, chacun à son tour, on était sur, hein, comme on dit, un hot seat en bon français.
Oui. Alors, tout le monde vous regarde,
non,
on vous écoute.
Non, puis, hein. Tout le monde te questionne pour voir comment tu peux avancer, comment tu peux...
Je comprends.
Oui, c'est vraiment ça, là. Et moi, j'avais pas le goût de rien. Hein. Et puis, je me gardais pas mal muette parce que j'avais peur de ce qui pourrait sortir. Finalement, c'était mon tour, j'ai pas pu me défiler. Et le monsieur qui me questionnait... En tout cas, non, là, si tu penses que tu vas me faire sortir, là, de ma réserve, là, non, mon homme, là, tu m'auras pas. Et au moment donné, il me pose une question, une question de coaching, qu'on peut pas, ça existe aussi dans la vie de tous les jours, que je connais très bien, mais je suis tombée dedans pareil. Il me demande, si tu n'avais aucune contrainte, que ferais-tu? Et là, je suis tombée dedans. Je partirais marcher, je connecterais avec les gens, et je partirais loin, loin. Ça sortit tout seul. C'était plus mon... Il a vraiment... Cette question a bypassé mon mental. Complètement bypassé. Oui, c'est tombé dans mes tripes.
Oui.
Dans mon cœur, dans mes tripes. Et là, ça sortit. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était 8 peut-être en tout. Donc, ces gens-là qui étaient témoins de ça, et c'est devenu un projet presque collectif parce qu'ils m'ont aidé. Il y en a qui ont senti des choses que je ne sentais pas encore. Ah, c'était vraiment quelque chose, ouais. Donc, c'est comme ça. Et je crois, moi, j'étais la plus vieille de la gang. Hein?
Okay.
Et puis, je pense que les jeunes femmes, elles se disaient, ouais, tu sais, elle dit ça, là, tu sais. Mais trois mois et demi ou quatre mois après, je suis partie. Le pied, à peine guéri, mais il était guéri, là. 4 mois après, je suis partie, après ça. Là, il y en avait qui avaient... Le menton leur a tombé.
Heidi, on prend une courte pause et on revient à la grande aventure. Nous sommes en compagnie de Heidi Spuller, Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive. C'est votre livre. C'est aussi votre vie, votre passion. Vous décrivez justement dans votre livre, Heidi, que votre aventure a pris forme grâce à trois éléments. Un rêve, un besoin et une contrainte. Parlez-nous du rêve.
Le rêve, c'était vraiment partir.
Partir.
Partir, oui. Marcher, partir sans limite. Ça, c'était le rêve, oui.
Et ça me fait penser, ça me rappelle plutôt une citation d'Éric Emmanuel Schmitt dans son dernier livre « La nuit de feu » que j'ai lu, que j'ai adoré et que j'ai retrouvé dans votre livre en début de chapitre de votre grande aventure. Permettez-moi de la lire parce que je pense qu'elle vous décrit assez bien. Alors, je reprends les paroles de Schmitt. « Partir, ce n'est pas chercher, c'est tout quitter. Proche, voisin, habitude, désir, opinion, soi-même. Partir n'a pas d'autre but que de se livrer à l'inconnu, à l'imprévu, à l'infini des possibles, voire à l'impossible. Partir consiste à perdre ses repères, la maîtrise, l'illusion de savoir, et à creuser en soi une disposition hospitalière qui permet à l'exceptionnel de surgir. » Ça vous décrit, ça?
C'est merveilleux, hein?
Ça vous interpelle?
Ah, je trouve ça merveilleux. Je trouve qu'il a dit quelque chose avec des mots que je n'aurais pas été capable de dire aussi bien.
Mais vous épousez totalement cette idée, ce concept?
Certainement.
Alors, c'était votre rêve, ça?
Et c'était très consolant de lire comme ça. Je me dis, je ne suis pas la seule folle, là, si je le lis dans un livre.
Alors, ça, c'est le rêve, et il y a le besoin, le désir, qui est un peu la même chose, mais peut-être préciser un petit peu, là, ça vient des tripes, ce désir, ce besoin.
C'était le besoin de communier avec les gens. Tout seul dans notre petit coin, on n'a pas de problème, c'est notre petite vie, on ronronne, tout ça. Mais je sais qu'on a besoin des autres pour avancer. Oui. Et moi, je trouvais que j'étais devenue un peu trop ermite, là, dans ma vie privée. Et je ne voulais pas non plus avoir du small talk. Je ne voulais pas qu'on jase, hein, jaser de la pluie et du beau temps. Et j'ai vraiment eu le bon projet pour ça.
Parce qu'on perd son temps à parler de tout et de rien.
Non, en tout cas. Et c'était ça. C'était un besoin. Je dirais que c'était un besoin, mais on peut appeler ça désir aussi.
Et aussi la contrainte, parce que la contrainte, elle est financière, elle est matérielle. Et là, ça touche une corde sensible, si j'ai bien compris.
Oui, ben c'était merveilleux, au fond. Ce qui était merveilleux, c'est que cette contrainte-là, qui aurait pu m'arrêter, parce que j'avais pas de finances pour ça. Hein? Oui. Et j'aurais pu dire, ben, je ferai ça un jour. Hein? On fait souvent ça, on dit, ah, un jour, je vais réaliser ce rêve-là, ou je vais faire ce voyage-là, ou je vais faire ce trip-là. Hein? On le dit.
Oui.
Mais là, je peux pas. Hein? Moi, c'était les finances. Ça aurait pu être, ah, j'ai des jeunes enfants, ah, j'ai ci, j'ai ça. Hein? On a toujours des bonnes excuses. Et dans ce cas-ci, j'ai pas accepté ça. J'ai vraiment pas accepté la chose. Au fond, ça a juste enrichi le projet. À la place de me chercher de l'hôtellerie qu'il n'y avait pas au printemps, il n'y en a pas au Québec, de l'hôtellerie, là. Des auberges, c'est tout fermé, là. Oui. Mais en tout cas, j'étais pas rendue là à ce moment-là. Je serais peut-être partie à un autre moment à ce moment-là, mais j'aurais pas fait le même trip. Alors que là, il fallait que ça me coûte rien.
Oui.
Et ça, c'est un beau défi. Moi, j'aime les défis.
Défi énorme aujourd'hui.
Oui. Ça m'a coûté un petit peu. Mettons que pour 14 semaines, ça m'a coûté quelques centaines de dollars.
C'est rien.
C'est rien. C'est rien.
On verra comment plus tard. Oui. Mais comment vous êtes arrivé? Vous vous êtes délesté. Vous aviez un logement. Vous aviez des choses matérielles.
Oui, oui, oui.
Comment vous avez fait?
Mais je veux juste finaliser avec l'obstacle. Parce que je trouve...
Allons-y.
Parce que c'est très important. Au fond, l'obstacle, il fait la différence entre un rêve qui flotte ou un projet qu'on réalise. C'est ça, que le rôle de la contrainte, c'était ça. Ça a été formidable. Et mon rêve a pris des jambes. Moi, j'aime ça dire donner des jambes à nos rêves. Hein. Il a donné des jambes à nos rêves, à mes rêves, à moi. Et c'est devenu très excitant. Moi, je suis une fille de défi, il faut le dire. C'est pas, peut-être pas tout le monde qui est comme moi, mais ça m'a excitée. Parce que penser que je vais trouver des hébergements soir après soir, j'ai des gens qui soient prêts à m'accueillir, je ne pensais pas trop que ça pourrait être difficile. Je ne pensais pas trop à ça.
Parce qu'il faut préciser que votre rêve, c'était justement de partir pendant 14 semaines. Je vous laisse
c'était
le décrire.
Oui, c'était 3 semaines, spontanément, avec le groupe, ce qui a sorti 3 mois.
Okay.
Finalement, c'était un peu plus longtemps. J'ai étiré un peu la sauce. C'était ça l'idée. Ça faisait déjà partie que j'irais me faire héberger chez les gens. Mais c'est sûr que je donnerais moi aussi. Je ne voulais pas avoir la charité, hein, l'orgueil. Hein.
Mais c'est de frapper à la porte.
J'ai pas frappé à la porte. Non, j'ai pas frappé à la porte. Frappé à la porte. Mais j'étais prête à certains moments de le faire. Okay. J'avais une page Facebook et puis je croyais, la pensée magique, quand on est un peu innocent, un peu naïf, ça prend de la naïveté pour réaliser des rêves. Sinon, on n'y va pas. Alors, je me disais, avec ma page, là, puis les gens vont m'aider et trouver le prochain spot. Ça va se faire tout seul. Ça, c'est rare, en fait, toute seule. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave.
Oui, oui, oui.
Mais ça a tout donné le jus à ce périple-là. Sinon, ça aurait été un périple ou un pèlerinage, comme on le fait à Compostelle. Alors que là, c'était à chaque fois une rencontre avec des gens. C'était à chaque fois une plongée dans d'autres vies. Et puis moi, je voulais donner tout ce que je pouvais donner à eux, parce qu'ils m'hébergeaient. J'étais tellement reconnaissante, premièrement, de me faire héberger, de me faire nourrir. Soir et le matin. Et des fois avec un lunch, je partais avec un lunch. Alors, j'étais prête à aider tout ce que je pouvais faire. Alors, moi, je peux coacher, je peux écouter, j'ai fait énormément d'écoute. Je peux laver la vaisselle, je peux faire plein de choses.
On y reviendra plus tard parce que j'aimerais poursuivre un tout petit peu cette recherche de la simplicité volontaire, la simplicité matérielle.
Le dépouillement,
parce que c'est un exercice... pour la plupart des gens aujourd'hui, qui pourrait être très difficile à accomplir. Vous l'avez fait de A à Z, vous vous êtes délesté d'à peu près tout.
Oui, sauf ma petite voiture et une coupe de boîte.
Dans la petite voiture.
Mais ce qui s'est passé, c'est que il y avait une fille, lors de ce fameux... Lorsque le projet a émergé, il y avait une fille à côté de moi qui me disait « Heidi, tu vas te laisser ton appart, tu vas te dépouiller, Je dis, wow, les menteurs, on n'est pas rendu là, puis c'est pas toi qui vas me dire ça, hein, c'est pas toi qui vas décider de ça. Alors, je me braquais, j'étais pas prête à ça. Et au fil du temps, des préparatifs, c'était pas évident de trouver quelqu'un pour sous-louer mon appartement. J'avais un bel appartement, là, vue sur le fleuve, haut duplex, oui. Magnifique, là. Pas cher, en plus. Et puis, je trouvais pas personne pour prendre... Tu sais, je voulais pas partir préoccupée. Et c'est là que j'ai décidé, écoute, là, je crois que c'est le temps de partir. Ça fait longtemps que je veux partir, mais à défaut de savoir où aller, je restais. Oui. Toujours par défaut. Ça faisait 16 ans, quand même, là. Hein? Ça faisait pas 2 ans. Pour moi, je restais un an là, j'ai resté 16 ans. Et puis là, j'ai pris vraiment le train du dépouillement. Ouais. Et je voulais pouvoir partir légère. Sinon, je sentais comme un élastique dans le dos qui m'aurait retenu dans le vieux, tu sais, dans la vie que je délaissais. Mm-hmm. Et je voulais pas ça.
Qu'est-ce qui était le plus difficile, justement, dans ce délestement?
Qu'est-ce qui était le plus difficile? C'est vraiment se couper d'objets qui nous sont proches. Ouais. Ouais. J'ai gardé un petit peu pour réaliser que j'ai gardé une boîte de livres. Alors, j'en ai vendu je ne sais pas combien de livres. Ou donné à la fin. On donne tout à la fin, hein? On pense qu'on vend tout ça. Non, ça vaut pas grand-chose qu'on a. On pense que ça vaut cher. Non, ça vaut pas grand-chose.
C'est juste, oui.
Et j'ai gardé une boîte de livres. Et pendant, je pense, 2 ans, je ne l'ai pas ouverte. Puis c'était pour moi des livres essentiels, juste pour dire. Puis là, je voyais toutes sortes de places. Il y a des fois des boîtes à livres, hein? Il y a des bibliothèques, des livres qui traînent. Je me dis, hey, ce que je prends, ce à quoi je suis accrochée, ça existe ailleurs. Même chose avec des ustensiles de cuisine, des choses. Ah, tiens, j'avais la même affaire, tu sais. Je dis, t'sais. C'est comme... C'est peut-être plus les choses plus personnelles. J'avais fait une peinture au moment donné qui était associée à une histoire, mais je l'ai laissée aller parce qu'il me semblait que j'avais fait le tour avec elle. Donc, ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'était la fin de réaliser qu'on pensait qu'il n'y aurait presque plus rien, puis le salon est encore plein. Et là, d'organiser quasiment un déménagement.
Et la date de tombée arrive, là, il faut partir.
Oui, c'est ça. Ah, oui. Ah, c'était magnifique. On a tout ramassé ça, là, on a amené ça à la Saint-Vincent-de-Paul, là, puis ils m'ont tout pris ça. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont pu faire des bonnes affaires.
Alors, c'est un soulagement avant de partir de... C'est un fardeau, là, qu'on laisse, qu'on pose par terre.
Non, c'est pas juste un fardeau. Oui, il y a le soulagement et il y a aussi un flottement. Ça flotte. Et puis moi, il faut dire, c'est pas la première fois que je fais ça. Moi, j'ai émigré.
Les deux pays, vous avez changé de pays.
Oui, et puis avant ça, je m'étais déjà dépouillée pour faire un tour du monde. Puis, en tout cas, moi, je pense 4-5 fois, je suis
à 4-5. On y reviendra sûrement un jour, un tour du monde. Fascinant. Ouais. Heidi, dans votre livre, il y a cette trilogie du rêve, du besoin et de la contrainte. Et j'ai trouvé une autre trilogie qui m'a inspiré, celle de la gratitude, la joie et l'amour. Vous avez mentionné ça dans votre livre.
Ah, oui. Je me rappelle plus. Je suis due pour le relire. Hein.
Mais on sent ce qui vous anime aussi, c'est justement cette gratitude devant la vie. C'est la joie, c'est l'amour des autres, n'est-ce pas?
C'est sûr que la gratitude, pour moi, c'est un élément clé dans la vie. Mm-hmm. Quand je suis dans la gratitude, je ne peux pas être en train de me plaindre. Je ne suis pas dans la victime. Je suis à une place où je suis, que mon cœur est grand. Quand mon cœur est grand, la joie, je veux dire, et l'amour aussi, je veux dire, c'est quand même un geste d'amour que les gens ont fait en m'accueillant, mais moi aussi, j'étais remplie d'amour pour eux, parce que j'ai accepté toutes sortes d'affaires, c'était pas toujours confortable, c'était pas toujours on peut s'imaginer, et j'ai toujours honoré là, d'avoir été reçue.
Ça nous rappelle un peu la philosophie bouddhiste, non? Un tout petit peu.
Je ne l'ai pas faite en m'appuyant là-dessus. C'était vraiment, j'ai laissé émerger ça, avec mon goût d'aventure. Mm-hmm. Mais je sais que il y a différentes approches par rapport à ça. Ouais.
On ressent la même chose quand même, la joie, la gratitude, l'amour.
Oui, puis l'amour, je me dis, l'amour, c'est pour moi, j'étais infirmière, alors pour moi, c'est le médicament universel.
Oui.
partait, s'il y avait de l'amour aujourd'hui, si on pratique l'amour, si on fait grandir notre amour, il y aura plus la guerre des vax, des anti-vax, et puis des pros et des contre, tout ça. On va englober tout ça, on va embrasser tout ça. Moi, je suis une défendriste, on a tous des opposés qui nous habitent, et puis ce qui est à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Mais si je peux embrasser ça, m'élever et regarder ça avec amour, mais le monde change.
La relation humaine, le désir d'aller vers l'autre, c'est peut-être aussi de faire obstacle à l'individualisme qui est courant dans la société aujourd'hui.
Je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. C'était vraiment, moi, dans le coaching, moi, j'aime le coaching parce que c'était la communion. Une communion. Oui. Et c'était ça que je cherchais. Et quand j'étais infirmière à domicile, c'était la même chose. J'avais quelques secondes pour établir un contact, là. Puis de là dépendait beaucoup la suite des choses.
Oui.
Alors moi, je suis une junkie de ça, de cette communion, quelque part, pas par la tête, mais rentrer par une autre porte, le cœur, les intérêts, les passions, ce que je vois autour.
C'est le bien-être des autres.
Le bien-être, mais surtout, où est la porte? C'est quoi la porte où je peux rentrer chez eux? C'est ça, là, ça, c'est très intuitif.
Oui.
Moi, j'ai toujours, je dis toujours, je coach avec toutes les fibres de mon corps. Hein. Alors, où est la porte d'entrée? Puis une fois que je l'ai, je mets le pied dans la porte. Je n'ai pas besoin de plus que ça pour faire un coaching ou là, en chemin, pour être en contact avec les gens. Souvent, ils ont complètement oublié de me questionner tout ce que je faisais là, tu sais.
Oui.
Parce que c'est moi qui leur... Et puis vous, comment allez-vous? Qu'est-ce que... OK, votre vie. Ah, je vois que... Est-ce que c'est vous qui faites la peinture? Tout ça. Et tu sais, okay. Alors je rentrais comme ça. Et puis surtout, les gens un peu plus... les aînés, on les écoute pas tellement.
Le moment est venu de partir en aventure avec vous. Alors, nous prenons une courte pause et on part en voyage. Nous sommes toujours en compagnie de Heidi Spuller, auteur de « Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive ». Et justement, parlant d'aventure, le grand jour arrive. Le 31 mars 2018, vous faites vos premiers pas dans cette grande aventure. Comment vous vous sentiez? Comment ça s'est passé le premier jour? Vous partez, je ne sais pas à quelle heure le matin, vous prenez votre café. Je pars, je quitte.
Je quitte avec une amie et on marche ensemble vers un restaurant où il y a quelques amis. Mon fils, c'est sa fête, c'est la fête. C'était la fête de mon fils. Et on prend un déjeuner ensemble et... je suis dans une sorte d'énergie de printemps. Il fait très froid, mais il fait très beau. Hein? Mm-hmm. Alors, il y a une énergie de printemps. Oui, un petit flottement. C'est sûr que ça flotte.
Oui.
Hein? Je flotte. Oui. Hein? Moi, j'appelle ça un trac. Hein?
Étiez nerveuse. Vous étiez...
Pas nerveuse. J'avais le trac. Ce n'est pas nerveux pour moi. Ce n'est pas la même chose.
Mm-hmm.
Hein? Et c'était tellement beau, ce déjeuner-là. Il y avait plusieurs personnes qui avaient été là lorsque le projet a émergé. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, quelques autres. Là, des personnes qui...
Vous étiez bien appuyé quand même, bien entouré au départ.
Oui. Et puis, il y a une personne qui m'avait invitée, qui était là aussi pour aller chez elle, passer la nuit chez elle. Et elle s'était offerte à m'accompagner.
Oh.
Alors, le premier jour, elle est venue marcher avec moi. Et ça, je pense, ça a été bon. Ça a été très, très bon. D'avoir senti ce soutien-là, ce chaud doudou.
Cette belle complicité, là,
Et les premières soirées, j'avais quelqu'un. Là, je longeais la rive sud de Montréal. Et puis, c'était après ces quelques jours-là que j'ai eu comme un choc. C'était quand même, là, quand je suis partie, c'était vraiment un saut dans l'inconnu, il faut bien le dire,
oui,
là.
Hein? Oui,
parce que ces amis qui m'hébergeaient le premier soir, c'était des gens que je connaissais, là, mais pas comme pèlerine, là.
Oui.
T'sais, puis là, j'étais là, puis c'était comme si j'apprenais une nouvelle job, une nouvelle fonction.
Oui. Vous étiez désorienté un peu ou vous aviez la conviction que... Tout va bien aller.
Ah, ça, ça, c'est sûr que je l'avais quelque part. Moi, dans ma tête, dans mes projets fous, parce que j'en ai fait d'autres, il y a comme un fil rouge.
Ah, oui.
À gauche et à droite, là, ça ne marche pas. Mais aussi longtemps que je me colle sur le fil rouge, ça marche. Puis c'est mince, mince. Là. C'est comme dans les montagnes, une marche sur une crête.
Ah oui, oui, oui.
C'est un peu ça.
Les petits sentiers, là, très étroits.
Très étroits, à gauche, à droite, ça descend. Oui, oui.
C'est la falaise d'un côté comme de l'autre.
Donc moi, dans mes projets fous, j'ai toujours ça. C'est fou, oui, d'accord, je peux être même stressée par moment. Et il y a ça. Il y a quelque chose qui me porte, qui me transporte.
Vous êtes quand même sereine, là, quand vous avancez.
Oui.
Vous avez la conviction que je suis sur la bonne voie.
Ah oui, 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 oui. Okay. Et puis je me dis, de toute façon, si je n'aime pas ça, si ça ne me convient pas, ben, je me trouverai une autre place pour rester. Et puis des meubles, maintenant, je sais comment ça se vend pas cher, hein?
Alors, disons qu'au fil des jours et des semaines, votre quotidien a changé, évidemment. Mm-hmm. Vous marchiez beaucoup, j'imagine?
Ça dépendait. Ouais. Mettons que des fois, les gens m'invitaient pour une deuxième nuit, et là, je prenais congé de sac à dos, ce qu'on dit de ne pas faire, là, paraît-il, quand on fait Compostelle et compagnie.
Oui, oui.
En tout cas, moi, je me promenais sans rien, mais je marchais aussi, même les jours de congé, là, où je restais une deuxième nuit à une place.
Oui.
Alors, même des fois, je marchais juste 5 km, mais des fois, je marchais 10, 11, là, les journées de congé, et ça pouvait aller les jours de marche jusqu'à 35.
Okay.
35, je trouvais ça assez, là.
Pendant la journée, là, c'est beaucoup.
Oui,
c'est beaucoup.
Surtout que vers la fin, on arrive forcément dans un lieu d'habitation avec des routes, des fois, marcher sur des routes, sur l'asphalte, et ça, je trouvais ça très dur sur mon corps.
Oui. Oui, oui, oui. Dites-moi, il vous est arrivé parfois de frapper à une porte comme une parfaite inconnue, de solliciter le...
Je vais vous... Oui, ça c'est la question.
Ça faisait partie du rêve, hein, c'est ça.
Ça c'était des fois le cauchemar. Quand j'arrivais, il ne faut pas oublier là, j'arrive, mettons, il est 5 heures, j'ai marché toute la journée, je ne sais pas où je vais dormir. Mettons, ce n'est pas confortable.
Hein,
ce n'est pas confortable. Mais il fallait quelque part que je fasse abstraction de ça. Je pense que j'ai cette capacité de faire taire un paquet de sources, là,
des petites bébites
de malaise.
Oui,
petites voix,
de petites voix.
Alors, je me dis, OK, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne suis pas équipée pour dormir dehors. Alors, c'est clair que je me trouve une place. Alors, j'allais habituellement dans des lieux comme des dépanneurs. Et puis, je me présentais là. Je demandais aussi aux gens d'où je partais, s'ils ne connaîtraient pas quelqu'un dans un environnement, environ, mettons, 20-25 kilomètres ou 30 kilomètres.
Oui, oui.
Des fois, ils me référaient comme ça, mais ça ne marchait pas toujours pour le jour même. Des fois, c'était pour plus tard. Et il y a vraiment eu toutes sortes d'histoires. Des fois, oui, je demandais aux gens que je rencontrais comme ça dehors. Je ne suis pas vraiment allée frapper aux portes directement, mais je suis allée à un moment donné. C'est là où il y a beaucoup une question d'intuition. Hein. Je me suis laissée guider par l'intuition. Par exemple, je me rappelle, je n'ai pas nommé les villages souvent parce que je protège les gens aussi, hein, parce que je ne veux pas qu'on les reconnaisse. Mais je peux le nommer parce qu'il l'attend, puis il le sait, puis il est d'accord avec ça. Mais par exemple, à Donham, quand j'arrivais là, j'avais vraiment un état d'esprit là, très fort.
J'étais toute montée, là, c'est ça, oui.
Et j'arrive là, et puis je me dis, OK, je m'en vais à une place que j'aime. C'était la boulangerie. Moi, j'adore les boulangeries.
Et ça sent bon.
J'allais là... Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Je ne vous le dirai pas. Lisez le livre, ça vaut le coup.
J'ai lu. Oui. J'invite les auditeurs à lire aussi.
Oui. Alors, c'est vraiment une belle anecdote, là. Donc, de fil en aiguille, à un moment donné, les gens m'invitaient, là. Donc, ça s'est arrivé quelques fois.
Et vous faisiez des petits travaux pour eux, vous dites
Des travaux, ben j'ai aidé, là, des fois ils ne voulaient pas.
Au quotidien des gens.
Oui, c'est ça. Mais je faisais surtout, je dirais, je faisais du coaching, des fois de façon sans le nommer, mais des fois aussi pour le dire. Mettons, souvent le lendemain matin, les gens avaient comme pris confiance plus. Mettons qu'il m'avait raconté, là, il y avait quelque chose, une relation difficile, une relation toxique au travail, quelque chose comme ça. Et là, je pouvais leur proposer qu'on fasse une séance avec ça. Donc ça, c'était des coachings. Et puis, mais je faisais beaucoup d'écoute. Puis l'écoute aussi, c'est très thérapeutique. Hein? Oui. Les gens, ils arrivaient au moment donné avec leurs albums. Là, je savais que c'était un moment sacré. Là.
Oui, oui. Les gens vous faisaient confiance. Là. Quand on apporte l'album de photos, de famille, on vous fait confiance, c'est sûr.
Oui. Et puis ça, là, il fallait honorer ça, là, ça, pleine mesure. Puis ça me faisait plaisir.
Oui.
Puis là, je pouvais les relancer. Ah, waouh, vous avez fait ça. Puis...
Donc, la plupart des gens vous faisaient confiance après quelques heures, quelques minutes, quoi que ce soit. C'est ça?
Oui. Après quelques secondes.
Quelques secondes, bon.
Je dirais. Oui. Ça, c'est vraiment l'art que j'ai, puis que j'ai appris comme infirmière à domicile.
Ah, oui.
C'est vraiment là.
Le rapport avec les gens, là.
T'as quelques secondes, tu sais. Oui. Si ça ne se passe pas dans les quelques secondes, habituellement, ça ne se passe pas après non plus.
Quels ont été, comment décrire, les moments forts de votre périple?
Ça, j'ai beaucoup de difficultés à le dire parce que c'était des moments forts. C'était une intensité jour après jour.
Toute l'aventure était un immense moment fort.
Oui. C'est sûr qu'il y a des places, des fois, où c'était plus vibrant, où il y avait, comme j'appelais ça, il y avait des buzz à certaines places, vraiment. Où vraiment, il y avait... une grande facilité, mais il y avait d'autres places où il y avait des défis, là.
Et il y avait quel genre de défis, par exemple?
Mais ça arrivait que j'étais pas bien logée, hein, ça arrivait.
Ah, oui.
Mais oui. Toutes sortes. Ouais. Mais il y avait tout... J'ai appris à me laisser glisser là-dedans sans trop être dans la résistance, et il y a toujours une magie. Souvent, le lendemain, il y avait une magie, il y avait quelque chose qui se passait. Qui transformait cette empreinte-là que j'avais eue là. Puis, des fois, je me disais, bon, je dors pas, c'est pas grave, là, je dormirai demain.
Je dors pas parce que...
Pour X raisons, des odeurs, ou j'étais pas bien, en tout cas. Alors, et puis je me disais ça. Puis en général, j'ai eu toutes sortes de matelas, si on s'imagine ça. Quand on est chez nous, on veut notre matelas, on veut notre oreiller, moi aussi. Et puis là, j'étais tous les jours sur un autre matelas, et puis je m'en foutais. Je dormais pas moins bien qu'à la maison, vraiment pas.
Les petites choses de la vie qui peuvent nous manquer, mais on s'habitue.
On oublie que ça nous manque. Oui. On oublie, il y a tellement autre chose. Oui. Il y a des rencontres. Mm-hmm. Il y a des rencontres.
Quelles ont été, décrivez-moi un peu les belles rencontres que vous avez faites, celles qui vous reviennent à l'esprit, les gens qui ont partagé, les gens dont vous avez peut-être pu changer le cours d'une vie, c'est beaucoup dire, mais on apporte un peu de bonheur quand on rencontre les gens comme ça, n'est-ce pas?
Oui, certainement. Je pense à une... j'étais à Mégantic et là, je connaissais une Amérindienne, puis elle m'avait dit... Si tu trouves pas de place, tu peux venir chez moi. La porte est toujours ouverte. Mm-hmm. Et je m'apprêtais d'aller chez elle parce que je savais pas où crêcher.
Oui.
Et là, je marche le long de la route et je rencontre un gars dans un troc avec une remorque et la remorque est renversée dans la fossée.
Okay.
Alors je m'arrête là. Puis en tout cas, à deux, on est capable de sortir, de régler la situation. Et le gars m'offre un lift.
Oui.
Et puis j'avais déjà assez marché, là, j'étais comblée à ce niveau-là. Alors, et puis il me ramène chez... Et puis à ce moment-là, je pensais aller chez la Amérindienne, parce que j'avais pas d'autre place, et ça me tentait pas, là, de faire, là, les... Ça me tentait pas, là. Je voulais ça facile. Mm-hmm. Et en cours de route, il fallait changer de voiture, de son pick-up, il fallait aller dans une voiture qui était paquetée complètement. J'étais comme ça, et je pouvais pas... Je me disais, je vais respirer plus tard. J'étais paquetée, j'ai jamais vu une voiture paquetée comme ça. Alors, il a pris cette voiture-là pour amener chez l'Amérindienne. On est en route, je reçois un SMS d'une femme qui me dit... je suis prête à vous accueillir, tatati, tatata, je suis... En tout cas, elle dit où elle est, tout ça. Et moi, spontanément, je dis, oh, change de bord, vas-y par là. Et ça a été tellement formidable. Cette femme-là, j'ai encore contact avec elle aujourd'hui. D'ailleurs, on s'est fait un coucou aujourd'hui. Elle m'a fait... Quand on a renoncé à certains conforts là, ou à certaines choses aussi alimentaires qu'on aime, là, elle m'a fait un gros café au lait, un gros bol avec du lait moussé, tout ça.
Mmh.
Ah, c'était le paradis. C'était le paradis. Puis elle m'a fait un déjeuner paradisiaque. Paradisiaque. Et cette dame-là, elle avait certaines contraintes au niveau de la santé. Mmh. Elle était assez faible. Et... elle m'a écrit après pour me dire, pour me faire un témoignage, d'ailleurs, qui est dans le livre, où elle m'écrit que ça faisait un bout de temps qu'elle voulait changer de place et qu'elle ne se sentait pas capable, pas assez d'énergie, que ça coûte trop cher. Ce qu'elle voulait, c'était quelque chose avec vue sur l'eau, c'était trop cher, en tout cas, plein de contraintes, tout ça. Et lorsqu'elle m'avait vue, elle a décidé, si elle peut, moi je peux. Et ça a pris un mois. Après un mois, elle était installée à une nouvelle place avec la vue qu'elle voulait sur le lac.
Elle l'avait visionnée, elle l'avait imaginée.
Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a réussi.
C'est grâce à vous.
Mais ça l'a déclenché. Ah,
l'interaction. Là,
au fond, c'est ça. Ouais. Moi, je voulais provoquer les gens d'aller vers leurs rêves, d'aller de faire ce qui comptait pour eux, de ne pas attendre d'être mort, de ne pas attendre d'être malade, oui. Vieux et malade,
oui.
De
ne
pas attendre d'avoir des regrets.
Comme vous avez fait toute votre vie, vous êtes partie à quelques reprises faire le tour du monde.
Oui.
Toutes sortes d'aventures comme ça.
Parce que quand quelque chose nous appelle, c'est à nous de dire présent. Hein? C'est à nous de dire ça. C'est personne d'autre qui va le faire. Et je me dis toujours, quand on pense quelqu'un, mettons une femme qui a une famille, et là, elle a un cancer.
Mm-hmm.
Tout d'un coup, on trouve tous les moyens pour organiser la maisonnée, les enfants et tout ça. Mais quand on a un rêve, pour moi, ça devrait être tout aussi important. Il faudrait tout mettre en branle pour que ça se réalise. Peut-être c'est ça qui va nous empêcher d'avoir un cancer.
Et comment on fait? Comment on fait justement? Parce que vous avez raison, nous avons tous des rêves, des grands rêves, des petits rêves, et on les remise toujours, souvent.
Ouais.
Comment on fait pour sauter de l'autre côté de cette clôture ou d'éliminer les barrières? Comment on fait?
Mais je l'ai fait comment? Je l'ai fait avec la contrainte, au fond.
Oui.
Je l'ai fait avec la compte, mais je l'ai laissé émerger. C'est surtout, je veux dire, le plus important, c'est d'aller à l'écoute de soi. Et les rêves, souvent, on mélange ça avec des rêves de tête où on veut plus ça, on veut des bébelles matérielles, une plus grande maison, un nouveau équipement. En tout cas, il n'y a pas de fin à ça et ça ne dure pas. Ça ne donne pas la joie. Ça donne du plaisir qui ne dure pas. Donc, moi, j'invite les gens d'aller dans leur cœur. C'est quoi ton rêve de cœur? Et les rêves de cœur, ce sont souvent des rêves de jeunesse.
Des rêves d'enfant. Refoulés peut-être,
qu'on n'a pas assouvis. Qu'on n'a pas assouvis, qu'on n'a pas écoutés. Moi, à 52 ans, j'ai connecté avec le rêve d'être une olympienne. Moi, j'étais une femme sportive.
Vous l'êtes toujours, d'ailleurs.
Oui. Et puis, à 52 ans, je réalise la petite fille, elle n'a pas osé même rêver d'aller aux Olympiques.
La petite Heidi n'a pas rêvé.
Ça ne se faisait pas rêver. On méprisait le rêve. À 52 ans, ça me revient. Mais savez-vous quoi, là? J'ai trouvé la façon d'avoir le feeling d'être une Olympienne. Et en dedans de 2 mois, en tout, j'ai couru un marathon de 42 kilomètres.
En deux mois,
voilà. Yes. Mindset,
Oui.
État d'esprit.
Je reviens à le titre de votre livre, Une aventurière intuitive. C'est ça, c'est l'intuition
qui
vous énergise, qui vous motive.
C'est l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur, là, mais pas au niveau de la tête. Il faut sortir de la tête. Qui a dit, peut-être vous le savez, qui a dit que le plus long voyage qu'un être humain a à faire, c'est celui qui mène de la tête vers le cœur?
Oui.
Qui a dit ça? Je le sais pas.
Je pense qu'il y a plusieurs auteurs qui l'ont dit d'une façon ou d'une autre, mais c'est...
Et moi, je crois que si on a compris ça dans notre vie, puis qu'on vit selon ça, on est heureux. On est dans la joie, on est dans l'amour, dans la gratitude, on n'a plus besoin de se casser la tête. Je ne dis pas que je suis rendue là, pas du tout, mais je suis le plus souvent.
Vous avez beaucoup de choses à accomplir encore.
Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps...
Un autre rêve olympique, mais d'une autre façon.
Oui, on dirait que là, je suis impatiente. Je veux avoir quelque chose et je veux tirer dessus. Ça ne marche pas.
Je reviens à la marche parce que vous avez marché beaucoup, évidemment, pendant votre aventure. La marche a servi à quoi? De méditation, faire le point, prendre du recul, vous faire avancer, évidemment, physiquement, dans tous les sens du mot, vous faire avancer. La marche, elle était quand même importante dans votre projet.
Oui. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je ne m'ennuie pas. Moi, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuyais pas du tout de marcher pendant la journée toute seule.
Qu'est-ce qui se passait dans votre tête, dans votre cœur?
Ah, j'ai vu avec le temps, il se traduisait quelque chose au début. C'est sûr, je sortais d'une maison. Alors, j'avais aussi pris des énergies de la maison. Des fois, il y avait des lourdeurs, tout ça. Et des fois, les gens me confiaient des choses. Des fois, j'en prenais un peu trop. Hein, je faisais trop l'éponge. Donc, oui. La première phase, c'était vraiment, là, je marche, je me concentre sur mes mouvements. Je sens les pieds qui marchent sur le... Tu sais, je sens la terre sur laquelle je marche. Et je me libère de l'empreinte de ce que j'ai ramassé, là. Oui. Je me libère de ça. Oui. Et après, j'avais comme une phase de ressourcement, je pourrais appeler. Mm-hmm. Comme de ressourcement, là, encore à travers les sens, hein, là, c'est la meilleure façon de se ressourcer, hein, c'est de voir, de me sentir, d'être dans la gratitude. Et puis souvent, je marchais en disant merci, un pas, merci, mm-hmm. hein, un pas, sur deux pas, merci, merci. Ben oui. Et ça me gardait dans la gratitude. Et donc ça, et ensuite, là, il y avait la fatigue qui s'installait un peu, mais en même temps, c'était la préparation pour être disponible à la prochaine place.
Oui.
De la trouver d'abord, si j'avais à la trouver, mais aussi d'être disponible pour les gens, d'être complètement là pour eux. Je le sens beaucoup comme ça, que j'étais complètement là pour eux. Je pense que c'est ça qu'ils ont senti.
Oui.
Ils ont reçu ça.
Est-ce qu'on peut résumer votre expérience de cette aventure en tirant quelques leçons que vous avez apprises ou comment on pourrait justement résumer cette aventure intuitive de 14 semaines, en fait, de quelques mois?
Suivi d'un nomadisme de 3 ans et demi maintenant.
Et hein? Le nomadisme, vous vivez dans le nomadisme,
encore.
Ce qui est rare, vous allez d'un endroit à un autre.
Ouais, pas tous les jours, là, mais
pas beaucoup
que
de bagages,
là je reste, c'est ça, avec moins de bagages.
Oui.
J'en ai encore trop.
Oui.
Des leçons, c'est que vraiment, c'est très réjouissant de réaliser un rêve. C'est une joie, un rêve de cœur. Moi, c'est pour ça.
Rêve de cœur.
Oui. Ça dure, c'est une joie durable. Mon marathon, là, j'en parle des fois, j'en pleure encore.
Oui.
Parce que c'est tellement touchant que je me sois donné ça. Même chose pour ce périple. Je me suis donné ça. Waouh! C'était impossible et je l'ai fait. Hein? C'est un peu ça aussi. Hein? J'aurais dit, mais non, je ne peux pas. Mais oui, j'ai pu. J'ai pu. Et c'est aussi connecter avec la vie, avec une nouvelle ouverture et la voir belle, merveilleuse.
Oui.
T'sais, le sous-titre du livre, c'est volume 1, Nouvelle vie.
Mais j'allais vous poser la question, à quand le volume 2?
ça va prendre en... Je ne sais pas, je ne me prononce pas, les gens veulent toujours une date, mais je suis en train de le vivre. Là.
Il faut le vivre.
Et j'ai besoin de... J'ai encore des choses qui ont d'abord besoin de se vivre avant d'être écrites.
Mais justement, une expérience, prenons un pèlerinage Compostelle, il vient au monde, pour ainsi dire, lorsqu'on le raconte. Lorsqu'on le partage. Est-ce que c'est la raison pourquoi vous avez écrit le livre? Pour partager votre expérience?
Bien sûr, pour partager.
Pour le faire vivre à d'autres?
Mais disons que ça faisait très très longtemps que j'avais le goût d'écrire, que j'essayais, j'ai déjà écrit des centaines de pages, ça c'est un autre rêve, un vieux rêve.
Oui.
Et je commençais, puis ça prend du contenu, quelque chose de solide pour amener ce projet à terme. Mm-hmm. Et là, moi, je faisais une sorte de journal de bord, là, et je me disais au retour, bon, Heidi, maintenant, t'as plus d'excuses. Et je l'ai fait, j'ai fait, et puis c'est un deuxième, j'ai vraiment fait un deux en un, là, hein? deux checks sur ma liste, mon pocket list.
Oui.
Et, et c'était un voyage tout aussi... intense, mais plus dans le temps. C'était plus long dans le temps.
Oui.
Mais c'est sûr que écrire un livre, surtout si c'est un récit, on ne parle pas du voisin, hein?
Non.
Tu regardes le miroir, puis des fois, oh, là, et ça, c'est pas si beau que ça. Qu'est-ce que je fais avec ça?
Oh là là. Heidi, ce fut formidable de vous rencontrer encore aujourd'hui. Mais j'ai une dernière question et je l'aborde ainsi. Dans son ouvrage intitulé « Le périple de Baldassar », Amin Maalouf fait dire à son personnage, après un très long voyage, et je cite, « En revenant à pied vers la maison, j'avais l'étrange sensation de commencer une nouvelle vie. » Est-ce la même chose pour vous, peut-être, après cette grande aventure intuitive de « je reviens à la maison plutôt, c'est comme commencer une nouvelle vie. »
Ouais. Ouais, moi, j'ai plus de maison, hein. J'emprunte la maison des autres. Et peut-être que cette partie-là n'est pas tout à fait terminée. Mais je sens que ça achève quand même. Là, mon nomadisme, ça achève. Je ne le ferai pas pendant 10 ans encore. Ça, là, je suis certaine.
Ouais.
Mais encore, il y a des magies qui se passent. C'est
ça
qui
est merveilleux. Sait-on jamais.
Il y a quelqu'un qui m'a proposé de louer son condo pendant 6 mois à Frémodic. Tu sais, ça m'est arrivé hier, là, pas plus tard qu'hier.
Ah oui? Bon. Je pense qu'il y a une belle étoile qui vous suit, ou vous suivez la belle étoile, je ne sais plus. Heidi, encore une fois, je vous remercie beaucoup de cet entretien qui, je l'espère, en inspirera plusieurs à entreprendre chacun à sa façon son propre périple. Je rappelle le titre, « Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive. Comment on se procure votre livre?
Il est sur Amazon, mais aussi j'en ai. Alors les gens, ils peuvent s'adresser à moi avec mon courriel.
Et nous aurons toutes les références sur le site jemarchepartout.com.
Avec dédicace, ça va me faire plaisir.
Formidable. Alors Heidi, en terminant, je vous souhaite bonne route et au plaisir de vous revoir un jour.
Merci beaucoup, David.
À bientôt.
Merci.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées sous l'onglet « Archives du site ». Aussi sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio-VM où vous trouverez également des descriptifs et références pour chaque épisode. Je tiens à remercier notre invité d'aujourd'hui, Heidi Spüller, auteur du livre « Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive ». Un gros merci à notre technicien au sourire contagieux, Valérian Fournier, et bien sûr, merci à vous toutes et à tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée de Gaston Bachelard. Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.